Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, les journalistes Sylvie Kaufmann et Gérard Courtois et l'essayiste Philippe Manière. Au sommaire de ce dimanche 21 avril, Notre-Dame de Paris ou la mondialisation des émotions et l'après-grand débat, quels enjeux pour la suite du quinquennat ? Le monde entier avait donc regardé quasiment en direct le spectacle infernal de ces flammes gigantesques dévorant l'une des cathédrales les plus célèbres de la planète. Spectacle infernal qui avait déclenché une concorde et une émotion mondiale quasiment universelle. Jean-Luc Mélenchon lui-même avait retrouvé sa plume talentueuse d'homme politique féru d'histoire et de culture républicaine pour rappeler, je cite, « toutes ces grandes heures du peuple de France qui ont transité à Notre-Dame, des premiers états généraux à la victoire sur les nazis, la nef a accueilli toutes nos clameurs libératrices. Je me dis qu'elle ne brûlera jamais tout à fait. Il en restera toujours un morceau qu'un être humain voudra continuer vers le ciel. » Une émotion mondiale où chacun s'appropriait la plus française des cathédrales. Ainsi, le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, se mettait lui aussi à dire « nous », parlant avec émotion de ces flammes détruisant 850 ans de notre histoire, de notre architecture. Un coup au cœur pour nous tous, les Européens, avait écrit dans la même veine Giuseppe Conte, le chef du gouvernement italien, et d'autres, comme le grec Alexis Tsipras, l'allemande Angela Merkel, avaient eux aussi parlé d'une culture européenne, d'une identité européenne, celle-là même qui semblait d'ordinaire si difficile à trouver et à définir. Encore plus inédit, voire insolite, Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien, avait évoqué, à propos de Notre-Dame de Paris, je cite, « un monument emblématique dédié au culte de notre Dieu unique ». Enfin, il y avait eu cette analyse si juste de l'éditorialiste Michael Kimmelman du New York Times, qui semblait comprendre mieux que quiconque ce qui se jouait pour chacun au fond devant cet incendie parisien, décrivant « une France dans la tourmente qui pleure un symbole de son identité profonde, impossible de passer à côté du symbolisme de ce pays qui se déchire sur la manière de se réinventer et qui a finalement communié dans le spectacle de ses flammes, dévorant ce qui ressemblait le plus à la matérialisation de son identité, au palimpseste de sa civilisation. »
We are watching the Notre Dame Cathedral on fire in Paris.
Un incendio devastante, terribile, le fiamme e il fumo nero che stanno interessando ormai da più di un'ora la cattedrale Notre Dame, la più visitata in Europa.
Un incendio che si sta produciendo en esa catedral de 850 años en París, que nos confirman que ya ha sido desalojada.
Los bomberos consiguieron controlar el fuego que devastó ontem en París la catedral de Notre Dame, la más famosa del mundo.
Voilà pour cette petite tour de Babel, ce pot pourri des réactions dans le monde entier après cet incendie de Notre-Dame de Paris. Philippe Manière, matérialisation de cette identité française que nous ne savons plus définir, disait cet éditorialiste du New York Times. C'est cela que vous avez vu aussi cette semaine dans ce moment d'unité et de concorde assez rare.
Oui, alors sur la dimension mondialisation de l'émotion, honnêtement, c'est pas la première fois que ça se manifeste. Rappelons-nous, par exemple, le 11 septembre, il y a eu tout un tas, malheureusement, de catastrophes qui ont suscité une émotion mondiale parce qu'aujourd'hui, les médias fonctionnent beaucoup à l'émotion et que, effectivement, quand un événement majeur suscite de l'émotion, les médias en font leur miel, non seulement parce que c'est bien naturel et que, dans un sens, c'est leur devoir, mais aussi parce que c'est leur intérêt et que c'est comme ça que marche le monde aujourd'hui. Donc, moi, ça ne m'a pas particulièrement surpris. C'est vrai que la communion française autour de l'événement a peut-être été un peu plus étonnante parce qu'on sait à quel point le pays est déchristianisé, parce qu'on sait à quel point il est déchiré. Et donc, une union se faisant autour d'un symbole chrétien, c'était relativement inattendu, en un sens. Mais c'est vrai que la réponse, elle est dans les extraits que vous venez de nous passer et dans l'introduction que vous avez faite, Émilie. C'est-à-dire que, bien sûr, Notre-Dame, c'est bien autre chose qu'un symbole chrétien. C'est un symbole de la grandeur de la France et de sa capacité à faire de très grandes choses qui restent dans le temps et qui impressionnent le reste du monde. Voilà, c'est purement factuel. Je dois dire, moi, que le soir de l'incendie, j'étais très ému. Pas seulement parce qu'il se trouve que je suis catholique, mais aussi parce que je sentais que se jouait quelque chose qui était une forme de métaphore. C'est-à-dire que j'avais l'impression de voir brûler devant moi pas seulement une église magnifique et un témoignage du patrimoine français, mais une sorte de métaphore de la France et de la France qui ne se posait pas de questions dans son identité. il se trouve qu'elle était chrétienne, mais c'est secondaire, il y avait une France qui était certaine de son identité, qui n'en avait pas honte et qui était tranquille sur tous ces sujets-là. Et cette France, elle a plus ou moins disparu au fil des 30 ou 40 dernières années. Et j'avais l'impression lundi de voir que c'était ça qui brûlait aussi et que dans le fond, on était devant le spectacle de cette espèce d'interrogation identitaire mais incarnée dans laquelle on se trouve depuis un certain nombre d'années. Et je dois dire que quand le lendemain matin, on a su que l'Église était en grande partie sauvée, je me suis pris, et c'est pas tellement mon genre depuis une dizaine d'années, à avoir une forme d'espoir en me disant, si on file la métaphore jusqu'au bout, peut-être alors que tout n'est pas perdu.
Vous avez fait cette lecture métaphorique des événements aussi, Gérard Courtois ?
Non, j'ai pas fait cette lecture métaphorique, mais j'ai fait une lecture plus architecturale. On l'a dit, et les extraits le montrent, bon, évidemment, Notre-Dame est un des lieux, l'édifice le plus emblématique de la capitale. De la capitale, c'est-à-dire d'une ville magnétique, dans le monde entier, capitale des arts, etc. Métaphore, effectivement, de l'histoire de France, une sorte de page ouverte où s'est inscrite l'histoire de France depuis 8 siècles, d'une manière ou d'une autre. Métaphore de la civilisation européenne. Le Nouvel Obs a republié un entretien avec Jacques Le Goff tout à fait éclairant sur il disait le grand historien, les cathédrales en Europe sont l'expression architecturale la plus européenne. Il disait au fond quand on se retrouve devant, quand les Européens se trouvent devant une cathédrale, ils sentent qu'ils appartiennent à la même civilisation et inversement on pourrait dire les touristes ou les visiteurs étrangers devant le même type d'édifice religieux ressentent au fond, le poids de cette civilisation européenne ou la prégnance de cette civilisation européenne. Mais il y a quelque chose, pour moi, de plus mystérieux dans l'émotion qui, à la fois française et internationale, c'est au fond cette espèce de lien que l'architecture est plus que toute autre forme d'art ou de génie humain, que l'architecture est capable de nouer entre les hommes et les dieux. Quand on se retrouve comme un touriste étranger devant Notre-Dame, quand on se retrouve devant Louxor en Égypte, devant Angkor au Cambodge, devant qu'est-ce qu'on pourrait dire, la mosquée Soleiman à Istanbul, on éprouve exactement cette même sensation d'une sorte de dialogue avec l'éternité. Et l'architecture est le seul par ça. Consistance, sa solidité, le seul art qui est capable de transmettre ça à travers les siècles et les millénaires. Et il y a là quelque chose de très troublant parce que ça paraît indestructible et que d'un seul coup, lundi soir, on découvre que c'est destructible. Et l'émotion qu'on ressent devant ce genre d'édifice, le Parthénon aussi à Athènes, l'émotion qu'on ressent devant ce genre de réalisation éternelle, qui paraît éternelle, renvoie dès lors que tout ça paraît vulnérable d'un seul coup à un trouble très profond.
En réalité, vous avez assisté, Sylvie Kaufmann, au retour du sacré que nous décrit d'une certaine manière Gérard Courtois, ou davantage, comme Philippe Manière, une réponse à une interrogation identitaire qui touche les Français, mais au-delà, qui touche les Européens, précisément au moment où nous sommes dans une campagne électorale pour des Européennes.
Oui, moi j'étais surtout frappée et surprise par la dimension européenne de la réaction à ce désastre. C'est là qu'on voit la différence entre la Tour Eiffel et Notre-Dame. Finalement, c'est que pour les touristes, la Tour Eiffel, elle est parisienne, elle est française, mais Notre-Dame, elle est européenne. Effectivement, Jacques Le Goff, j'avais lu aussi cette interview que je trouve merveilleuse.
Qui date de 2006.
De 2006, voilà, et qui souligne lui-même la dimension, la caractéristique européenne à la fois de l'architecture et le côté civilisationnel européen de Notre-Dame de Paris. Plus près de nous, Donald Tusk, la réaction de Donald Tusk, le président du Conseil européen, qui est donc lui polonais, il a dit, nous sommes liés par quelque chose, cette Notre-Dame montre que nous sommes liés par quelque chose de plus profond et de plus important que les traités. Aujourd'hui, on en comprend mieux l'essence. Et toutes les réactions qui sont venues d'Europe soulignent cette chose qu'on a en commun, l'histoire, l'architecture, le rapport à la religion, la culture, et tout ça était est ensemble dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et il y a l'autre dimension européenne qui est la destruction et la reconstruction. Et l'Europe, en particulier l'Europe centrale, a été tellement détruite, qu'il s'agisse de l'Allemagne de l'Est, de la Pologne, des Balkans. Il y a plein en Europe, il y a beaucoup d'églises, de cathédrales qui ont été complètement détruites, beaucoup plus que Notre-Dame, et qui ont été rebâties. On sait faire ça. On sait beaucoup détruire en Europe et on sait aussi rebâtir. Et voilà, je trouve que tout ça est ressorti vraiment dans cette réaction, dans cette communion européenne. Bien sûr, il y a aussi des réactions en Chine. Vous diffusiez tout à l'heure le commentaire d'une télévision brésilienne. Le monde entier a été ému. Mais là, c'était plus, je dirais, peut-être le réflexe touristique. Tandis que le réflexe européen a été vraiment, je crois, culturel, civilisationnel et totalement européen. Et juste pour terminer sur l'émotion, ça m'a fait penser aussi au livre de Dominique Moisy sur la géopolitique de l'émotion, qui est de 2008 ou 2009, je ne sais plus très bien, mais enfin, qui n'est pas d'hier. Et c'est vrai qu'on est aussi dans un monde
qui réagit beaucoup plus sur l'émotion
que sur la raison.
Ce qui vous a frappé dans cette semaine de communion autour de Notre-Dame de Paris, Hubert Védrine, c'est ce réflexe européen dont parlait Sylvie Kaufmann, où en effet, c'est l'émotion mondiale, cette nouvelle géopolitique de l'émotion.
Alors, je pense qu'on va en parler après, parce que c'est pas tout à fait mondial, en fait, c'est la chrétienté, en réalité. La chrétienté qu'on croyait disparue, qui est à l'origine de tout ça. Et ce dont on parle, c'est exactement ce qui n'est pas sur les billets euros. Et si ça n'y est pas, c'est parce que l'Europe contemporaine était incapable d'assumer ça, alors qu'il s'agissait de racines, pas de choses contemporaines. Moi, je crois assez à l'idée que les grandes idées des Lumières, c'est la sécularisation des valeurs chrétiennes, mais à un point que les gens ont oublié, puisque dans des pays européens aujourd'hui, notamment la France, les sociétés sont profondément déchristianisées. On le voit à travers des tas de phénomènes, de lois, etc., etc. Mais malgré ça, il y a une sorte de réaction viscérale d'un pays qui se sent encore catholique, qui, à mon avis, même totalement athée et non pratiquant, est catholique, qui vit très mal, à mon avis, l'injonction multilatéraliste, qui est imposé comme une sorte de politiquement obligatoire depuis des années et des années, qui ressort là, je ne sais pas si c'est durable, je ne sais pas quelle force ça aura, en fait. Et je pense que ce fond catholique et chrétien survit, par exemple, l'idée d'universalisme, c'est l'idée catholicos, universelle. Donc les défenseurs de l'idée de l'universalisme européen sont dans cette continuité dont on ne sait pas ce qu'elle va devenir, parce que le degré de décomposition des sociétés, de désagrégation des valeurs, fait qu'on ne sait pas très bien quelle est la suite. Donc je trouve ça très très fort, très impressionnant, en effet très européen, pas tout à fait mondial, même s'il y a des hommages bienvenus.
Iranien notamment, je le citais tout à l'heure.
Non mais vous avez vu son argumentation, c'est la même religion, donc c'est les descendants des trois religions monothéistes. Bon mais ça parle pas aux Chinois ça, il n'y a pas tellement d'émotions chinoises par rapport à ça. Donc si on parle après du sentiment de mondialisation, c'est peut-être plus vrai quand ça touche de façon catastrophique des touristes. Parce que c'est le seul élément de communauté internationale vrai. Voilà, donc quelque chose de viscéral que moi je trouve impressionnant, d'une certaine façon émouvant, dont je ne connais pas la suite. Je ne sais pas ce que ça va devenir.
Intéressant d'ailleurs, Gérard Courtois, de voir comme quelqu'un comme Michel Barnier a pu voir cette semaine et rappeler le rappel des racines chrétiennes de l'Europe. On se souvient de l'époque où prononcer ces mots-là faisait scandale. Ça veut dire qu'on est dans un temps européen aujourd'hui où l'on peut dire cela sans que le débat soit rouvert.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Hubert Védrine. Je pense que l'architecture et la religion de la beauté qu'elle porte, ou de la culture, la transmission des bâtisseurs du XIIe siècle de Notre-Dame, ou des pharaons égyptiens ou des Khmers anciens, cette religion de la beauté, elle provoque une émotion universelle, pas seulement européenne. Je pense que ça dépasse les frontières du christianisme. Je pense que ça transcende, pour le coup, les frontières du christianisme. Maintenant,
les deux ne s'opposent pas.
ça s'ajoute.
Bon. Certains ayant noté, par exemple, l'écrivain François Tcheng cette semaine, que s'y jouait aussi juste la panique métaphysique de l'homme devant l'élément naturel déchaîné. Il y a même vu aussi dans Notre-Dame de Paris une figure mondialement connue de la maternité, la mère universelle dont on aurait mesuré qu'elle était mortelle.
Oula, j'irai pas jusque-là.
J'essaye de nourrir votre réflexion.
Mais sur les racines chrétiennes, puisqu'on l'évoque, Hubert Védrine, alors pour le coup, je partage totalement ce que vous avez dit sur la sécularisation, comment les Lumières ont sécularisé le christianisme en Europe depuis deux siècles. On est dans un registre culturel, on n'est pas dans un registre cultuel par rapport à Notre-Dame et par rapport à cette catastrophe. Donc c'est quelque chose qui est discible. Si je puis dire. En revanche, il y a quelque chose qui est occulté ou pudiquement la faiblesse de la politique européenne en matière culturelle, qui est absolument tragique, qui n'était pas dans les traités, qui l'est à peine dans les traités récents de Lisbonne. Et ça, c'est ce qui est troublant et presque gênant, c'est cette espèce d'émotion, très très mise en scène ou très, je ne doute pas de la sincérité des dirigeants européens pour être aux côtés des Français dans ce deuil et ce que je qualifierais d'indifférence de l'Europe depuis 50 ans sur ces questions-là.
Non mais c'est Philippe peut-être Magnan. Pas mal qu'il n'y ait pas d'institution européenne chargée de ça.
Il pourrait y avoir des politiques.
Il n'y a pas besoin d'un commissaire chargé de ça.
Il pourrait y avoir des politiques, il pourrait y avoir des projets.
L'immensité du passé européen en matière culturelle dont nous parlons tous, c'est fait sans les institutions.
Elle s'est faite d'ailleurs beaucoup avec les églises, entre autres. Mais
moi, vous je voudrais revenir sur
ce que disait Gérard Courtois à l'instant. C'est intéressant, Gérard disait, c'est discible parce que ça n'est pas cultuel. Et je peux le comprendre au sens où on est dans une république laïque où on ne va pas prendre parti pour un culte ou pour un autre et certainement pas s'autoriser de son attachement à un culte au risque de s'aliéner les autres. Là-dedans, il y a une vision admirable et puis il y a aussi un tout petit peu de cuisine électoraliste, hein, évidemment. Bon. Je peux le comprendre, mais c'est tout le problème. Et je reviens à ce que disait Hubert tout à l'heure, parce que j'étais sur le point de l'évoquer moi-même. Cette anomie, cette inexistence, cette fadeur inouïe de la monnaie européenne dans son incarnation. On parle d'incarnation, on parle de religion. L'incarnation, comme vous savez, dans le catholicisme, ce n'est pas un mot qui est sans importance. Quand on a la monnaie unique,
Hubert sort un billet de 20 euros.
Il y a des ponts, il y a des trucs qui, enfin, c'est insensé à quel point on a eu le souhait de ne rien montrer sur ces billets.
Regardez le billet du Berbédrine.
Non, mais je pense que
voyez-vous
les auditeurs
sur ce
le
billet
peu.
Que voyez-vous
On voit des vitraux, on voit des portes et on voit des ponts. Mais on aurait préféré crever que de montrer des vrais monuments. C'est-à-dire qu'on a des monuments symboliques. Alors, bien sûr, il y a des arbitrages, j'imagine, diplomatiques. On ne va pas montrer Notre-Dame parce que ça pourrait fâcher les Italiens qui ont également tel très beau monument, etc. Mais enfin, on aurait quand même pu avoir une espèce de projet. Pour le coup, Gérard, si on avait voulu que l'Europe soit culturelle, au moment où on fait les billets, au moment de l'incarnation. Encore une fois, pendant un an, il y a l'euro existe, mais il n'y a pas d'incarnation. Et tout à coup, on fait les billets. Et qu'est-ce qu'on met dessus? Des trucs purement conceptuels. Surtout, on n'est rien. On n'est rien. On est vaguement des décors. On n'est rien. Et là, je reviens, pardon, c'est pas sur un thème de frisculture, je vais faire du film quelque chose au petit pied, mais cette espèce d'obsession un peu suicidaire, enfin d'effacement identitaire obsessionnel, nous serions traîtres à nos idéaux si nous étions fidèles à nous-mêmes, c'est dans cette folie-là qu'on est en Europe depuis assez longtemps, et c'est ça qu'on voit sur les billets, et c'est le retour de ce qui avait été refoulé précisément, c'est-à-dire cette identité, parce que l'identité, c'est, comme on sait, un peu dur à refouler et ça revient, c'est à ça qu'on assiste aussi, je crois. Mmh. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'être religieux, ni de considérer que notre système, nos valeurs sont les seules qui vaillent pour penser que nous sommes ce que nous sommes et pas autre chose. Et je crois que cet incendie, ce drame en direct, a ramené beaucoup de gens, quelles que soient leurs affiliations, leurs dénominations, comme on dirait aux États-Unis, à cette réalité que, bah voilà, quand on est européen, on a aussi cet héritage chrétien, et c'est pas la peine d'être chrétien, et c'est pas la peine d'être pour les curés, surtout par les temps qui courent, pour assumer cet héritage-là. Et c'est une folie qu'a faite l'Europe depuis le début de nier ça.
Alors dans ce moment de crispation identitaire européenne, intéressant de voir Sylvie Kaufmann comme s'est réveillée une sorte de querelle entre les anciens et les modernes sur le sujet de la reconstruction de la flèche et de la cathédrale. Est-ce qu'il faut les reconstruire à l'identique avec les candidats aux européennes qui d'un coup se sont mêlés de ce débat-là, François-Xavier Bellamy, qui connaît bien cette émission, qui disait qu'il fallait évidemment la reconstruire à l'identique, quand d'autres disaient que de toute façon dans l'histoire des cathédrales on ne reconstruit jamais à l'identique. Ce débat-là aussi, finalement, il dit quelque chose qui n'est pas éloigné de ce que disait à l'instant Philippe Manière.
Oui, alors juste pour revenir sur les racines chrétiennes et le fait que cette catastrophe réhabilite d'une certaine manière les racines chrétiennes dans le débat public, j'ai noté aussi la surprise des Polonais, dans les réactions des Polonais, de la presse et des personnalités, de voir des Français prier. Parce que dans leur esprit, en effet, la France laïque avait totalement oblitéré tout signe religieux. Et ils ont, ça, c'était
tous les badauds qui sont venus près Notre-Dame de Paris n'étaient pas tous en prière.
Absolument, c'est... absolument. Mais de voir ces images qui ont été retransmises très largement de gens qui se mettaient à genoux et qui priaient, mais aussi de gens qui venaient très nombreux, y compris des laïcs, mais qui venaient pleurer cette cathédrale catholique qu'ils croyaient totalement menacée. Ça a beaucoup surpris à l'Est. Sur la polémique sur la reconstruction, bon, d'abord, c'est intéressant de voir que dès la trêve, si je puis dire,
les polémiques reviennent toujours vite en France.
A été assez brève, voilà, on est déjà.
C'est pas une polémique, ça.
Oui, c'est un débat et qui est justifié. Voilà.
Qui est allé de pair avec est-ce que 5 ans, ce délai d'un coup annoncé par Emmanuel Macron.
Alors ça, c'est plus en politique intérieure, je pense. Mais votre question est sur le débat européen et sur la reconstruction. À nouveau, je me réfère à l'histoire de l'Europe. On a beaucoup rebâti. On a très souvent rebâti à l'identique. Je pense par exemple à la cathédrale de Dresde ou le château royal de Varsovie qui était complètement rasé et qui a été reconstruit absolument à l'identique. Et en général, tout ça se fait d'ailleurs avec des dons des gens, des souscriptions nationales. C'est pas l'État qui le fait, ce sont des donations des citoyens, ce qui est assez intéressant.
Puisque vous êtes sur le sujet des donations, Hubert Védrine, parlons-en, parce que cela a à voir en effet avec, vous citiez tout à l'heure le livre de Dominique Moisy, mais cette géopolitique de l'émotion. Moisy qui parlait, je crois, dans son livre de ce qui s'était passé après le tsunami de 2005, l'afflux de dons qui avait presque fini par être excessif et gênant. Je crois que vous vouliez revenir sur cela, Hubert Védrine.
Je peux dire un mot sur l'architecture, mais très bref, qui est que je pense qu'on ne peut pas techniquement reconstruire à l'identique. Il faudrait raser des forêts entières pour retrouver les poutres. Ouais. Bon,
et la cathédrale elle-même a été plusieurs
Mais si c'est fait,
fois,
je pense que si on innove, il faut le faire dans un esprit de modestie et de respect quand même. Même si on emploie des matériaux nouveaux, des techniques nouvelles. Ce n'est pas le lieu d'un geste architectural de la part d'un mégalomane. Ce serait mal, ça, par rapport à ça. Bon, ça c'est normal.
Parenthèse
technique.
Refermée.
Sur la géopolitique, des émotions, c'est vrai qu'il y a un très bon livre de Mick Moisy, enfin, et qui reprend un livre de Pierre Hassner, fondamentalement, qui avait fait un livre magnifique là-dessus, bien sûr. Et moi, je trouve ça extrêmement dangereux, en fait, pour les sociétés humaines. Je pense qu'elles sont de plus en plus ingérables, notamment pour ça. Mais techniquement, juste deux chiffres, il y a 6 milliards d'abonnés au téléphone mobile. En fait, il y en a plus que d'habitants, parce que plein de gens ont 2-3 téléphones, mais en fait, disons 6 milliards presque, alors qu'on est 7. Et les chaînes de télévision, le chiffre le plus récent que j'ai trouvé, c'est 35 000 chaînes de télévision satellites. Donc évidemment, c'est une espèce de caisse de résonance. Donc les gens résonnent là-dedans, selon le jeu de mots classique, résonnent comme des tambours. Bon, qu'est-ce que ça donne, hein ? Les émotions, moi je suis plutôt de culture rationaliste. Je pense plutôt que pour organiser les sociétés, leur dessiner un avenir, prendre des décisions, après des tas de débats dans tous les sens, bon, il faut quand même décider quelque chose. Donc je me méfie un peu de cette gigantesque caisse de résonance. Je me rappelle d'une présidente d'une académie des sciences il y a quelques années qui avait dit une chose très simple et amusante, on peut pas à la fois réagir et réfléchir. Sauf les gens qui ont énormément réfléchi avant sur les sujets. Donc il y a quelque chose qui est très 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 dur à gérer, qui peut être dans le meilleur ou le plus mauvais sens. On a vu pas mal d'exemples, le 11 septembre, on a vu le tsunami, en effet, on a vu n'importe quelle catastrophe où les gens peuvent se sentir concernés matériellement ou symboliquement. Ça agite la terre entière Et ça dure un certain temps, et puis après c'est estompé, remplacé par une autre excitation collective ou émotion collective.
Une autre émotion collective.
Et je ne sais pas où ça nous conduit au total.
Sylvie Coffin.
Oui, juste une petite chose, c'est que on a eu beaucoup de références au 11 septembre, aux attentats du 13 novembre, au tsunami. Or là, il n'y a pas de victimes. Il n'y a pas de victimes humaines, il n'y a pas de pertes humaines. Et l'émotion est intense. Et c'est ça, je trouve, qui est très intéressant.
Très singulier dans cette affaire.
Voilà, ça montre bien que
oui, c'est plus pur,
il y a quelque chose derrière qu'on a du mal à définir, qui est culturel, je ne sais pas, civilisationnel,
patrimonial.
On parle aussi d'émotion patrimoniale, mais
ça n'est ni de la compassion ni de l'indignation, puisqu'il n'y a pas de victime et pas de coupable. Donc c'est effectivement, comme le disait Hubert Védrine, plus pur. C'est que c'est vraiment, et c'est là où je pense que la question identitaire apparaît comme étant
occidental
et chrétien, absolument. Alors j'ai peut-être un tout petit mot sur l'émotion, la réaction, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, cette espèce d'enlevée de boutique, cette mobilisation générale, rien n'est meilleur en télévision qu'un direct, évidemment, Coco. On fait un breaking, Coco. Et donc, dans le fond, l'animal média, en tant qu'il est un bras de l'animal capitaliste, est au paradis quand il voit ce genre de choses. Si je puis me permettre, s'agissant de l'incendie d'une cathédrale et les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Ça ne signifie strictement rien.
Et un bonheur aussi, c'est, voilà. Pour théorie du
mais
complot.
Ça ne signifie strictement rien. C'est-à-dire que vous aviez exactement la même jouissance, alors qu'il ressortissait peut-être légèrement plus à la Schadenfreude, et encore que, au moment où il y avait les exactions des gilets jaunes, les premières, qui étaient si spectaculaires. Maintenant, on est un peu mitridatisé, mais les premières. Vous aviez la même mobilisation des médias et surréaction en termes de couverture. Parce qu'en réalité, ça vend, tout simplement. Voilà. Donc ça ne signifie pas grand-chose. Et au surplus, et évidemment, parce que c'est une vérité éternelle que plus on parle, plus on dit de bêtises, c'est l'occasion d'innombrables bêtises qui ont été dites, pas ici sans doute, probablement, oui, flattons-nous de l'illusion qu'on fait exception, mais c'est absolument incroyable le nombre de bêtises qu'on a pu entendre. Enfin, l'une de celles qui m'ont le plus marqué, c'est quelqu'un qui se félicitait qu'on ait réussi à sortir parmi les statues les plus précieuses, puisque peu de temps avant, or c'était les statues qui dataient de Viollet-le-Duc, qui étaient parmi les choses qui avaient le moins d'intérêt, évidemment, à notre et tout est comme ça. C'est-à-dire qu'évidemment, cette espèce de bavardage de gens non qualifiés, qui est la marque du média moderne, est évidemment une espèce de boulevard pour à la fois de l'émotion et de la bêtise. Et comme le disait très justement Hubert Védrine à l'instant, ça va souvent de pair. Parce qu'à partir du moment où on n'introduit pas la raison, eh ben, le bavardage dégénère.
Alors, pas de bavardage émotionnel. Gérard Courtois.
Juste d'un mot, il va y avoir, dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent, un bavardage de gens tout à fait compétents. Je reviens sur la question de la reconstruction à l'identique ou pas. Et ça va être, alors, on peut dire un débat, une controverse, une polémique, une guerre entre les anciens et les modernes, qui sera mondialisée. Donc l'émotion, elle va continuer. Elle a commencé en France. Parmi les architectes, parmi les spécialistes des monuments historiques ou parmi les responsables politiques, on l'a vu immédiatement. Mais à partir du moment où la France engage un concours international d'architecture pour savoir ce qu'on fait de cette flèche, est-ce qu'on la reconstruit à l'identique, pas à l'identique, est-ce qu'on la reconstruit pas puisqu'elle avait disparu pendant quelques siècles avant que Viollet-le-Duc ne la réinstalle à sa manière, ça va déclencher, n'en doutons pas, compte tenu de ce qu'est le petit monde mondialisé des architectes de grands talents.
Un débat en soi qui peut durer un certain temps.
Il y aurait peut-être un projet d'architecte chinois. Mais...
Peut-être.
L'avenir le dira. Un dernier mot.
Un certain pays, par exemple.
Pays, c'était sublime.
Un dernier mot avec vous, Hubert Védrine. Est-ce que cette semaine d'émotion et de réflexion nous raconte quelque chose aussi de la place de la France dans le monde? Perte de puissance économique, commerciale, diplomatique, mais puissance culturelle intacte avec cet incendie de Notre-Dame. C'est cela aussi qu'on a vu cette semaine?
Non, je ferai pas le lien, moi. Et puis j'emploierai pas le mot puissance là-dessus, c'est pas puissance culturelle, c'est un élément du patrimoine de l'humanité, de rayonnement, comme ça, mais c'est pas une puissance, parce qu'il n'y a pas un pouvoir qui puisse l'utiliser dans un sens ou dans un autre. Non, ça montre que la France, Paris, en l'occurrence Notre-Dame, moi je préfère l'art roman, mais enfin c'est Notre-Dame, représente quelque chose pour une grande partie, évidemment pour la chrétienté, mais au-delà pour beaucoup de pays, et le tourisme est mondialisé, donc c'est un certain sens. Mais j'emploierai pas le terme de puissance à ce sujet, et ça nous dit rien sur le niveau fort ou faible de la puissance qu'a encore la France, à mon avis un peu plus que ce que croient les Français dans tous les autres domaines. Je lis pas les deux en fait, moi.
Merci. Alors, après, on va revenir précisément à la politique pure. Cet incendie qui survient à l'instant même où Emmanuel Macron devait se livrer à un exercice périlleux, dire quelle suite il donnait à son grand débat national, lancer l'acte 2 de son quinquennat, marquer une rupture avec un automne et un hiver de tourments, eux aussi historiques. Les annonces prévues lundi ont fuité dès mardi. Le plan com a planté, malchance ou chance, à voir.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Avant même ce 23e samedi des Gilets jaunes, cette nouvelle démonstration de force baptisée ultimatum, les annonces fuitées du président de la République avaient été jugées décevantes, pas au niveau, par les principaux leaders du mouvement. L'un d'eux, Jérôme Rodriguez, avait eu cette exclamation « Comment ça se fait qu'on n'attendait rien mais qu'on arrive quand même à être déçu ?» Encore de la com, pendant ce temps-là, rien de concret, disaient aussi les réseaux sociaux des Gilets jaunes. Rien sur les 80 km/h, ni sur le prix de l'essence, tout ça est totalement ridicule, pouvait-on lire. Pourtant, Emmanuel Macron allait vraisemblablement annoncer en début de semaine prochaine qu'il était favorable à ce que des référendums d'initiative citoyenne, les fameux RIC, réclamés par les Gilets jaunes depuis des semaines, puissent être organisés sur certains sujets d'intérêt locaux. Annonce présidentielle immédiatement raillée par Éric Drouet mardi, qui en dénonçait le caractère local. Dans cette France des Gilets jaunes, le président allait donc vraisemblablement début de semaine confirmer les mesures suivantes. Baisse de l'impôt sur le revenu, certaines niches fiscales supprimées. Le gouvernement qui semblait également prêt à revenir sur la désindexation des retraites de l'inflation. Autre annonce forte à venir, le gouvernement pourrait prendre en charge la garantie du paiement des pensions alimentaires pour les mères isolées. Pour le volet institutionnel au-delà du RIC, une nouveauté, une convention de 300 citoyens tirés au sort, installée dès le mois prochain en mai, chargée de travailler à la transition écologique. On parlait aussi, ce qui n'était pas rien, de supprimer l'ENA, d'un nouvel acte de décentralisation, d'un gel, des fermetures de services publics de proximité, à commencer par les écoles et les hôpitaux, et ce jusqu'à la fin du quinquennat. Restait à trouver maintenant la bonne mise en scène pour confirmer, préciser ses annonces, en trouver de nouvelles pour renouveler l'effet de surprise et convaincre les Français, dans la foulée de Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qu'après cette intervention présidentielle tellement attendue, plus rien ne serait jamais comme avant.
Je reviendrai vers vous comme je m'y étais engagé dans les jours prochains pour que nous puissions agir collectivement suite à notre grand débat. Mais ça n'est pas le temps aujourd'hui. Demain, la politique et ses tumultes reprendront leurs droits, nous le savons tous. Mais le moment n'est pas encore venu. Et je vous le dis ce soir avec force. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire.
Là, Jupiter a sonné la cloche, le monde s'arrête de tourner. Faut pas que le monde s'arrête de tourner. Malheureusement, le monde doit continuer à tourner.
Voilà Emmanuel Macron après l'incendie de la cathédrale, dans une certaine récupération politique immédiate quand même, et le gilet jaune Maxime Nicole que vous entendiez à l'instant. Gérard Courtois, il n'y aura plus d'effet de surprise ou alors il faut recréer l'effet de surprise? C'est un mal ou un bien pour le président de la République?
Emmanuel Macron, il se voulait disruptif et il est servi, hein. Depuis 6 mois, une crise sociale sans précédent depuis un demi-siècle, un grand débat sans équivalent depuis jamais, et au moment où il s'apprêtait à donner ses conclusions et à faire un effet de souffle pour éteindre l'incendie des Gilets jaunes, il y a un autre incendie qui souffle son propre plan de communication. Est-ce que c'est une chance ou une malchance? Honnêtement, j'en sais rien. C'est lui qui va en faire la démonstration dans quelques jours, puisqu'il a reporté ses annonces. Elles ont fuité, elles sont apparues relativement. C'est-à-dire qu'il avait mis la barre tellement haut dans les jours et les semaines qui précédaient, et son entourage, en disant qu'on allait refonder le contrat social, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, etc. Que évidemment les réglages annoncés qui devait être annoncé lundi dernier. On verra ce qu'il en reste quand les choses seront formalisées, semble-t-il, dans quelques jours. Ces réglages apparaissent effectivement relativement mineurs par rapport à la refondation du contrat social. Alors, la chance qu'il a, c'est que d'une part, il a immédiatement saisi
l'opportunité politique,
l'émotion provoquée par la catastrophe de Notre-Dame pour en apparaître comme le rebâtisseur ou l'architecte en chef de la reconstruction et de la restauration de la cathédrale, mais ça lui offre l'occasion d'un oral de rattrapage. L'oral qu'il s'apprêtait à faire, semble-t-il, aurait été décevant. En tout cas, c'est la sensation générale. Alors, est-ce que c'est une sensation provoquée par l'effet de contraste avec la catastrophe de Notre-Dame ? D'un côté, ce spectacle poignant, de l'autre côté, ou très impressionnant, de l'autre côté, l'indexation des retraites en dessous de 2000 euros. Enfin, il y avait une espèce de contraste absolument terrible entre le drame en direct et ce qui aurait dû être annoncé au même moment. Voilà, donc il a cette chance-là. Maintenant, ça c'est les questions de forme. La question de fond, elle reste entière. Hein. C'est comment on change de cap. Enfin, comment on ne change pas de cap, plus exactement, mais de méthode, ouais. Alors que c'est le cap qui a braqué autant que la méthode.
Et comment on échappe, Philippe Manière, à l'effet boîte à outils, simple boîte à outils, pas au niveau de la crise française actuelle ?
Qu'est-ce qu'on appelle la crise française actuelle ? Si vous voulez, le trouble est tellement protéiforme que, à partir du moment où on fait l'analyse qu'il est protéiforme et qu'il a toutes sortes de dimensions, on a forcément, au moment où on exprime la réponse, une liste de mesures, dont certaines peuvent sembler relativement courageuses ou en tout cas fortes conceptuellement, et d'autres ressortissent plus au catalogue de mesurettes concrètes. Mais enfin, n'oublions pas quand même que le fait générateur de toute cette affaire, c'était des choses très concrètes. C'était ça a été bien montré par les sondages ensuite, les 80 km/h, l'augmentation du prix de l'essence, etc. Alors, bien sûr, derrière tout ça, il y a un trouble sur l'authenticité, la réalité de l'expérience démocratique dans un pays comme la France.
Sur la fracture territoriale, enfin, il y a un certain nombre de grands débats qui ont été ouverts par cette crise.
Dans un pays comme la France, parce que je pense que ça se voit beaucoup en France aujourd'hui, mais ça n'est pas qu'en France. Il y a beaucoup de pays où ça se passe d'une manière assez comparable. En réalité, beaucoup de pays, et vous avez raison d'introduire cette dimension, Émilie, territoriale, beaucoup de pays où le territoire est hétérogène. On ne voit pas assez à quel point la France, comme certains autres pays, comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, mais pas comme tous les pays, a un territoire très divers en termes de densité. Vous êtes en Suisse, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Italie du Nord, vous n'avez pas du tout le même sentiment de disparité et donc d'inégalité putatif parce que vous allez, tous les 10 km, vous avez une petite ville et tous les 25 km, vous avez une ville moyenne et vous n'avez pas la grande ville qui écrase les autres et vous n'avez pas de désert. Donc, enfin, il y a des déserts à certains endroits d'Italie, mais pour faire simple, on est dans ces pays-là, dans une géographie extrêmement différente qui, à mon avis, invite beaucoup moins à l'envie, qui a été un facteur fondamental, à l'envie, à la jalousie et à la suspicion, parfois légitime, parfois non légitime, d'inégalité. Alors maintenant, quand on a dit ça, on n'a rien dit, parce que le territoire français, il est ce qu'il est, puis on ne va pas le changer, on ne va pas mettre des villes moyennes partout, comme dans le Bas-de-Württemberg ou en Lombardie, en France. Donc la réalité française, elle est la réalité d'une forme de souffrance qui tient à cette disparité qui, dans l'esprit de beaucoup de Français, se traduit par un soupçon d'inégalité, de mauvais traitement et de privilèges. Alors ce soupçon, il est pas mal fondé en termes de méthode, c'est pas absurde de se poser la question. Très souvent, en revanche, me semble-t-il, la réponse qui est apportée est « oui, évidemment, on est maltraité », alors que c'est faux. Quand vous regardez les chiffres, beaucoup de territoires qui se sentent maltraités sont très bien traités, bénéficient d'énormément de transferts, ont plus de services publics par tête de pipe que quand on est dans une grande ville. Et c'est pas là qu'il y a le plus de chômage. Enfin, si vous voulez, c'est très compliqué, parce que le sentiment, le ressenti, on l'a beaucoup dit depuis le début de cette crise, n'a rien à voir avec la réalité objectivée, mais la réalité objectivée est de peu d'importance compte tenu de la puissance du ressenti. Donc, la réponse politique à apporter dans ce cadre-là est extrêmement complexe. Et moi, je trouve que ce qu'on en sait actuellement
n'est pas si mauvais. Moi, je m'attendais à pire. Je m'attendais à des mesures démagogiques mauvaises du point de vue de l'analyse rationnelle, ou alors à rien. Et je trouve qu'on a plutôt des mesures pas trop mal, qui peuvent être utiles, dont certaines, alors pour le coup, prennent en compte une réalité grave. Typiquement, cette question de permettre à des femmes de recouvrer les pensions alimentaires, c'est extrêmement important. Vous savez qu'en France, une partie très très importante des ménages pauvres, ce sont des ménages où il y a seulement un parent, généralement une femme, avec deux enfants. Et la raison de la pauvreté, c'est généralement que la pension n'est pas versée. Donc ça, c'est une réalité. Et si on veut lutter contre la pauvreté, c'est bien plus important d'obtenir le paiement de la pension que d'inventer un nouvel impôt redistributeur. Donc ça, typiquement, ça me paraît, vous voyez, quelque chose qui est assez à la fois... ça prend en compte la réalité du terrain, ce qui est ressorti du grand débat. C'est probablement efficace, à condition que ça ne devienne pas une bureaucratie supplémentaire. Et c'est assez novateur. Donc moi, j'attends de voir ce qu'il en sera quand on saura tout. Mais ce que je vois pour le moment ne me désespère pas. D'abord parce qu'il n'y a pas de démagogie folle et d'autre part parce qu'il n'y a pas rien. Donc je trouve que c'est pas si mal.
Les mesures sociales, en effet, vous avez cité les pensions alimentaires, les retraites qui seraient de nouveau indexées sur l'inflation. Ça n'est pas rien. Les petites retraites, oui, inférieures à 2000 euros.
Donc là,
c'est
une
mesure,
démagogie, là, quand même,
mesure qui coûte quand même 1,4 milliard d'euros, je crois. Sur le plan, j'allais dire, davantage symbolique, il y a la suppression de l'ENA, bien sûr, annoncée, qui a été abondamment commentée. Pour ça, ça c'est pédagogique précisément, comme le disait Philippe Manière à l'instant, Sylvie Kaufmann.
Ça c'est débile.
C'est débile, a dit Philippe. Si on reprend la métaphore de rebâtir, nous rebâtirons. Alors est-ce qu'on rebâtit à l'identique ou est-ce qu'on transforme? Et là, dans ce qui a fuité, donc dont on ne sait pas si c'est exactement si ça sert finalement de ballon d'essai et si ça va être conservé dans les annonces qui vont être faites finalement. Il y a les deux choses. Il y a des mesures correctrices, comme en effet qui visent à rétablir le pouvoir d'achat ou à l'améliorer. Et puis il y a des mesures plus transformatrices qui portent sur les institutions en réalité, sur le RIC, sur la réduction du nombre des députés. Sur
la création de cette convention de 300 citoyens.
Voilà, il y a là des innovations. Et puis alors, il y a la suppression de l'ENA qui fait l'effet d'une bombe dans nos médias. Je dois dire, c'est la chose la plus débattue. Je suis assez étonnée parce que c'est quand même pas la plus significative. Mais je veux dire, même le Financial Times y a consacré un éditorial. C'est vous dire si ça concerne nos élites, en effet. Oui, ça peut être un gadget, ça peut être. Certains disent c'est un scalp qu'on offre aux gilets jaunes, c'est un sacrifice sur l'autel du populisme. Je ne sais pas. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va mettre à la place. Parce que c'est vrai qu'il faut. L'ENA a été créée en 1945. Le monde d'aujourd'hui n'est plus celui de 1945. C'est évident. Donc pourquoi se priver de la possibilité de transformer, de réformer la formation de nos élites. Il faut le faire. Maintenant, comment est-ce qu'on va le faire? C'est la vraie question. Et là, on n'a pas la réponse, franchement, puisqu'on n'y est pas.
Hubert Védrine, il vous intéresse ce débat sur la suppression annoncée de l'ENA? Qu'est-ce qu'il dit de la France?
Je pense que dans ce genre, on pourrait dire qu'il faut supprimer la bourse, par exemple. Parce que c'est quand même très, très, très lié à la dérive financière sans limite de l'économie mondiale dérégulée. Mais pour répondre sérieusement, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on met à la place si on la supprimait? Il faut rappeler qu'à l'origine, il y a plein d'institutions beaucoup plus anciennes que 45 qui existent toujours. Mais en 45, l'idée, c'est qu'il fallait dépasser le recrutement séparé par chacun des ministères et chacun des corps. Où il y avait des conseillers d'État, inspecteurs des finances, diplomates, préfets, etc. Qu'il fallait un corps unique de hauts fonctionnaires, pas pour faire de la politique, mais pour gérer l'État. C'est ça l'idée d'origine. C'est une idée de Gaulle, de Bray, mais soutenue par la gauche de l'époque. Donc si on supprimait l'ENA, je ne sais pas s'ils iront jusqu'au bout, est-ce que c'est pour la remplacer par un recrutement par contrat? Est-ce qu'on va confier au Boston Consulting Group la gestion de l'État français? À ce moment-là, c'est une rupture pire que Notre-Dame, parce qu'on casse quelque chose qui remonte au légiste de Philippe le Bel, en gros, dans la construction de la France. Ou alors, est-ce que c'est une réforme en profondeur? Ce qui avait été évoqué, c'est le système école de guerre. C'est-à-dire on forme les hauts fonctionnaires, mais on ne peut pas devenir juge, inspecteur, contrôleur avant quelques années d'exercice. Bon. On ne sait pas très bien parce que ça n'a pas été précisé, mais je voudrais en profiter pour dire qu'à mon avis, il n'y a pas de liste de mesures qu'elle soit, je suis assez d'accord avec Philippe là-dessus, il y a des mesures intéressantes, mais c'est quand même extravagant qu'il faille des centaines, des milliers d'heures de débats pour conclure qu'il faut que les, on verse les pensions alimentaires non versées. Enfin, c'est quand même hallucinant. On est dans un système de décision publique complètement arthritique pour qu'il faille ça. De toute façon, je ne crois pas qu'une liste de mesures, quelle qu'elle soit, puisse satisfaire. Il y aura forcément un concert de protestations, de lamentations, c'est trop, c'est pas assez, c'est bidon, il faut faire autrement. Ce que les, dans la société d'aujourd'hui, il n'y a pas simplement une catalogue de mesures qui est demandée. Il y a un changement du mode d'exercice du pouvoir. Et là, si on ne veut pas tomber dans la dictature du, disons, de la démocratie directe, instantanée, qu'elle est de tous sur chacun tout le temps, il faut vraiment donner corps, mais sans déraper complètement.
Qu'est-ce que ça veut dire, une autre gouvernance, appelons ça comme ça?
Ça veut dire que comme les gens n'acceptent plus la démocratie représentative qui était inventée il y a 2 siècles et qu'ils ne veulent pas être représentés par qui que ce soit, mais qu'on ne veut pas non plus la dictature instantanée sur les portables, est-ce qu'on rétablit la peine de mort dans la minute qui suit? Bon, entre les deux, il faut faire vivre une démocratie permanente, délibérative, mais où on puisse décider quelque chose quand même. Parce que l'autre... explication
de
la défiance.
Et de ce point de vue-là, les annonces faites justement pour des RIC sur des sujets d'ordre locaux, les cette création de convention de 300 citoyens.
La mise en œuvre, c'est pas un ou deux petits référendums, pourquoi pas, local ou régional, si on en respecte les résultats, contrairement à Notre-Dame-des-Landes. C'est une mise en œuvre sur plusieurs années, c'est une question de pratique. Donc il y a une attente, c'est une pratique différente, régulière, convaincante, qui ferait tomber petit à petit cette protestation. D'autre part, sur toutes les questions sociales, je pense qu'on devrait revenir à une idée très simple, qui est la notion très vieille, hein, d'égalité des chances, auxquelles les gens ne croient plus, parce qu'ils pensent être dans une société de caste. Je me demande s'il n'y a pas d'ailleurs ce mot dans l'intervention qu'aurait dû prononcer le président. Donc c'est bloqué. En dépit de transferts sociaux géants, au prix d'une fiscalité complètement asphyxiante, les gens sont quand même pas contents à l'arrivée parce qu'ils pensent que c'est bloqué, il y a une fatalité. Donc je pense que toutes les mesures politiques et sociales, culturelles et autres, devraient aller dans le sens de rétablir l'idée qu'il y a une vraie égalité des chances, pas au début, pas simplement l'école, mais en permanence. Pas que la formation permanente qui marche pas bien, tout le temps. Il faut redonner un sentiment de mobilité. C'est ce que devrait faire le mouvement En Marche. Il était fidèle à son nom.
Sylvie Kaufmann.
Oui, non, je voulais juste revenir sur cette histoire de suppression de l'ENA, parce que pourquoi est-ce que ça touche un point sensible? C'est parce que c'est en rapport avec une des choses qui est apparue le plus clairement dans cette crise qu'on a depuis 6 mois, même depuis plus longtemps, c'est ce rejet des élites et cette contestation des élites. Et en particulier, ce qui est apparu dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est la contestation des élites du public, du secteur public. Moi, ça m'a toujours frappé que tout ce mouvement s'en est pris beaucoup plus aux dirigeants du secteur public, aux fonctionnaires, aux représentants élus, que aux dirigeants du secteur privé et aux patrons. Pourquoi ? Parce que les gens ont le sentiment maintenant d'un millefeuille administratif, d'une administration qui est devenue beaucoup trop complexe, qui est déconnectée des préoccupations quotidiennes des citoyens et des gens, parallèlement à un ascenseur social qui est en effet bloqué et le sentiment très répandu d'une injustice sociale du fait qu'il n'y a pas d'égalité des chances. Donc l'ENA finalement finit par symboliser ça et je trouve légitime qu'on essaye de répondre à ce sentiment-là. Après, il faut voir, à nouveau, on en revient à notre question, comment est-ce qu'on y répond? Mais je pense que l'interrogation et le souci, la volonté d'y répondre est légitime.
Gérard Courtois, un mot avec vous sur cette une du Monde, vendredi 19 avril, ce journal auquel vous appartenez encore jusqu'à aujourd'hui. Vous quittez la vie politique le 21 avril, c'est ça, un autre avant vous. Le Monde qui croyait savoir vendredi qu'il n'était pas question pour Emmanuel Macron de reprendre le discours reporté, qu'il engageait son gouvernement, le président, à lui soumettre de nouvelles propositions. Ce qui donne vraiment le sentiment que la politique, c'est quoi aujourd'hui, une sorte de recherche du scoop permanent?
On ne sait pas ce qu'il va annoncer. Est-ce que ce sera à l'identique ou à peu près ce qu'il devait annoncer? Est-ce qu'il modifiera et la rhétorique et le contenu? Franchement, honnêtement, on n'en sait rien à ce stade. Bien. Mais je vais revenir, je répondrai sur un autre point, mais revenir d'un mot sur l'ENA. Moi, il y a quelque chose qui me trouble beaucoup dans cette histoire. Le président, c'est tout à fait recevable, a dit les hauts fonctionnaires doivent être sélectionnés sur des bases exclusivement méritocratiques. Mais c'est le cas.
C'est le principe du concours.
C'est le cas. Le problème, c'est que la méritocratie scolaire est totalement indexée en France et de plus en plus, au fil des décennies, des 3 ou 4 décennies passées, sur l'origine familiale, l'origine sociale, l'origine géographique. Alors, le gouvernement peut parfaitement plaider, à juste titre, qu'il a commencé à s'attaquer au problème en dédoublant les classes de CP et de CE1 dans les zones les plus compliquées, etc. Admettons, et je pense que c'est une bonne mesure, mais son plein effet, ce sont aujourd'hui des enfants qui ont 6 ou 7 ans. Ils seront au seuil de l'ENA dans 15 ans, ou 12 ans, ou 15 ans. 12 ans s'ils sont très brillants. Et entre-temps, que se passera-t-il? On continuera à avoir cette espèce de déformation. Et effectivement, je veux dire, le système scolaire français, l'égalité républicaine à la française, s'est complètement renversé parce que les choix familiaux vont logiquement vers les formations les plus intéressantes, les plus profitables pour l'avenir des enfants. On sait cette statistique absolument, et c'est aussi vrai à l'ENA, mais c'est encore plus vrai à Polytechnique, que la catégorie sociale la plus représentée, ce sont les enfants d'enseignants. Parce qu'ils ont les codes, ils ont l'environnement familial, ils ont l'environnement culturel qui leur permet de s'engager dans une scolarité et dans les bons établissements. Donc, c'est une affaire de très longue haleine. On peut faire des ronds dans l'eau et dire on va supprimer l'ENA. Un, il faut savoir par quoi le remplacer. Et deux, il faut avoir la mesure de cette espèce de renversement du principe de l'égalité républicaine qui a construit effectivement des logiques sociales extrêmement puissantes.
Hubert Védrine, puis Philippe.
Moi, je suis complètement d'accord avec ce que je raconte, mais j'ajoute qu'il faut faire attention à la dérive à la Bourdieu à partir du raisonnement sur la transmission culturelle, disons, par les milieux bourgeois, notamment enseignants. Parce qu'on arrive à la conclusion qu'il faut détruire la culture générale, puisque c'est ça qui donne un privilège tout à fait choquant. Et après, on est dans un gouffre et on a les gilets jaunes à la sortie. Bon. Donc, c'est pas une bonne réponse par rapport à ça. Il y a 36 façons de faire évoluer le recrutement, la formation, les nominations après, qui relèvent pas de la suppression expiatoire symbolique. Hein.
Lorsqu'on parle de l'énarchie, on parle d'ailleurs davantage d'un mode de formation que d'un mode d'accès à l'école, Philippe Magnin.
Oui, alors non, moi je suis d'accord avec Gérard Courtois et je prends aussi le codicille d'Hubert Védrine. C'est-à-dire que le problème fondamental dans cette histoire de gilets jaunes, c'est que aussi légitimes que soient certaines récriminations, et beaucoup le sont, il ne faut pas basculer dans l'idée que toute inégalité d'État est la preuve d'un privilège. Ça, c'est inacceptable, c'est faux, et d'ailleurs c'est contre-productif. Si jamais on allait dans ce sens-là, y compris pour les gilets jaunes. Nous avons besoin, et les plus faibles et ceux qui ont le plus besoin de bonnes politiques publiques ont besoin de bons experts de politiques publiques. Donc si on commence à les prendre dans la rue plutôt que de les former, je suis pas sûr qu'on s'approche de l'objectif. Là où il y a une difficulté, où on se rapproche un peu du privilège, c'est ce que Alain Minc, pour le coup, très justement, appelait la rente sur la société que vous confère le fait d'avoir été reçu à l'ENA. Si vous êtes issu d'une bonne famille et que vous avez fait de bonnes études à 18, 19, 20, 21 ans, vous avez ensuite une sorte de rente sur la société. C'est ça la pathologie de l'ENA. C'est pas le fait qu'on ait une bonne école qui forme bien des bons hauts fonctionnaires. D'ailleurs, ces hauts fonctionnaires, à la différence de la moyenne des fonctionnaires, pardonnez-moi de le dire, sont des gens qui, c'est injuste quand on parle de moyenne, évidemment, j'en suis bien conscient, mais les hauts fonctionnaires, en général, travaillent énormément. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la virtus, comme aurait dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le courage de changer. Et les gilets jaunes perçoivent comme quelque chose d'injuste, à juste titre à mon avis, cette espèce de prégnance d'impérium de la technocratie sur leur vie. Au pluriel. C'est ça qui est insupportable. Mais ça n'est pas parce que les énarques devraient être formés autrement. C'est parce que on ne devrait pas laisser quelqu'un faire toute une carrière réussie, y compris dans le privé, et profitable dans tous les sens du terme, au seul motif qu'il a réussi ses études et qu'il a passé l'ENA il y a 15 ans. Et ça n'a rien à voir avec la formation de l'ENA. C'est la gestion ensuite, la manière dont on autorise les gens à rester fonctionnaires quand ils font de la politique, la manière dont on permet aux gens d'aller dans le privé tout en restant fonctionnaires. Ça, c'est une pathologie grave, mais qui est toute petite, qui ne justifie pas qu'on supprime l'ENA. Elle justifie qu'on supprime certains avantages qu'on consent aujourd'hui aux énarques. Et puis derrière, il faut reprendre complètement en main une administration qui est devenue folle, un peu comme l'administration chinoise. Il y a des centaines d'années. Il y a un moment, l'administration, c'est un canard dont la tête est coupée, puisque précisément plus personne n'ose rien dire, mais qui peut faire beaucoup de dégâts en courant n'importe où. Et les gens sentent profondément, et à juste titre à mon avis, ce pouvoir indu que la puissance publique a sur eux parce que l'administration est omniprésente, vétilleuse, insupportable. J'ai vu l'autre jour justement un militaire au gradé qui est passé il y a peu de temps dans le privé et qui a toujours été un grand serviteur de l'État et qui reste très attaché à l'État. Mais il me disait dans des termes que je ne répéterai pas ici parce qu'il y a de chastes oreilles, à quel point il était fasciné des emmerdements. Je cite quand même ce mot-là parmi d'autres, qu'il vivait depuis qu'il avait monté sa petite boîte de conseil. C'est une folie. Et ça, les gens le sentent profondément. Et dès 80 à l'heure aux impôts, etc., vous avez des tas de modalités de cette expression de « on ne supporte plus ».
Mais ça, c'est plutôt la bureaucratie en général.
Oui,
que
c'est
la
pas les énarques.
Technocratie.
Sauf que les énarques devraient pareil. Essayer de limiter ça, oui. Et que généralement, ils n'ont pas le courage d'empêcher leurs administrations de déconner.
Emmanuel Macron, ancien élève de l'ENA, à qui on a beaucoup reproché de s'être entouré justement de cette technocratie-là, de ces énarques qui l'entourent, de cette garde approchée technocratique. Prenant cette décision-là, qu'est-ce que ça veut dire aussi, Gérard Courtois?
Je voulais revenir à l'essentiel. Au-delà de l'ENA, l'essentiel, c'est assez simple. Hein. Emmanuel Macron est l'objet d'un rejet ou d'un profond de tiers au moins, voire trois quarts des Français. Et en tout cas d'un scepticisme également massif à l'égard des résultats que le grand débat pourrait produire. Donc l'enjeu pour lui, il est très simple, c'est quelle crédibilité retrouve-t-il dans ses réponses et à travers la crédibilité, quelle capacité d'action. Il joue la suite de son mandat sur cette affaire, là dans les semaines qui viennent. Et le temps, plus le temps passe, plus le temps presse. Le 26 mai, il y a le scrutin européen. S'il n'apporte pas des réponses qui, d'une manière ou d'une autre, permettent aux gens, je dis aux gens, pas aux gilets jaunes, aux Français, en général, de se dire, bon, il a compris à peu près ce qui s'est passé, et il essaie de répondre. S'il n'arrive pas à faire cette démonstration-là, il sera l'objet d'un vote sanction au mois de mai. Donc, il y a aussi cette crise de temps maintenant. Alors, il a été déporté de quelques jours par la catastrophe de Notre-Dame, mais il ne peut pas traîner très longtemps non plus pour faire passer ce message-là.
Il se disait d'ailleurs beaucoup, Sylvie Kaufmann, en Macronie ces dernières semaines, que ces annonces post-grand débat allaient se confondre avec la campagne des européennes, qu'elles allaient réellement mettre sur les rails et lancer. Ça vous semble prendre cette direction-là?
Non, il y a un télescopage absolument énorme. Déjà, le grand débat était en train d'empiéter sur la campagne pour les élections européennes. Maintenant, on a cet épisode Notre-Dame et ce moment d'unité nationale qui, je crois, est fragile et ne va pas, malheureusement, ne va pas durer. on voit déjà les polémiques partir sur le financement des dons, sur la reconstruction dont on a parlé tout à l'heure, mais les polémiques sur les financements des dons sont très révélatrices de nos déchirures à nouveau et de nos divisions. Donc, mais je suis entièrement d'accord avec Gérard, mais ça vous étonnera pas, que le moment est crucial politiquement. On a quand même un président qui a 28%, je crois, dans les sondages de taux de confiance et la moitié des Français qui continuent de soutenir d'une manière ou d'une autre le mouvement des Gilets jaunes. Donc on est quand même, on n'est pas encore sorti de 6 mois d'une crise extrêmement profonde. Voilà, c'est vraiment un moment très très important, je crois.
Merci Sylvie Kaufmann, Hubert Védrine, Philippe Manière et Gérard Courtois. Tout petit mot pour recommander des lectures cette semaine. Vous avez cité tout à l'heure en effet l'excellent entretien republié dans l'Obs avec Jacques Le Goff, le grand historien médiéviste qui revient sur tous ces bâtisseurs de lumière qui étaient les bâtisseurs de cathédrales. Hubert Védrine, vous vouliez conseiller un ouvrage cette semaine?
Oui, ça n'a pas de rapport avec le sujet de ce matin, mais quand même le livre de Bernard Guetta, et notamment l'enquête en Hongrie, c'est très intéressant et très professionnel.
Ça nous remet au moins dans la campagne européenne.
Il désapprouve totalement ce que pensent les gens derrière Orban, qui sont ses copains d'autrefois des 68 arts, mais il fait comprendre par quel cheminement mental et politique ils en sont arrivés là. Merci. Donc c'est un livre utile.
Livre de Bernard Guetta, on citera également dans Le Point cette semaine le texte de l'écrivain Sylvain Tesson qui a escaladé 150 fois Notre-Dame et qui nous en compte ici de très riches heures. Conseil de lecture, Philippe Manière, non. Gérard Courtois, non. Vous en apporterez d'autres la prochaine fois. Merci à Marine Beccarelli qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission, à Luc Jeanrenaud qui l'a réalisée. À la technique aujourd'hui, c'est Nicolas Slimani. À 12h45, Marc Weisman reviendra lui aussi sur l'imaginaire de Notre-Dame de Paris et la fabrique de l'identité française. Et tout de suite, Caroline Brouet nous propose un déjeuner dominical et pascal avec des spécialistes du Made in France et donc bien sûr avec Arnaud Montebourg. À la semaine prochaine.